avec elle Mouchoise et Johnny T-Bay qui la joue le blues et boit du café. Le vaisseau de Ocean Fortune, c'est une vie mensuelle, explore tous les jours sur sa barge russe, le tréfonds de l'humanité sont tous expliqués. C'est sur Jet FM 91.2.
Bergerus 10.36. Considération actuelle du système.
Alors, si tu vas un petit peu en arrière, vendredi, jeudi de la semaine dernière, si tout se passe bien, toujours chronologiquement dans mes émissions, avec Jet FM, car il peut toujours y avoir des problèmes, des anicroches, comme on dit. D'où les phénomènes inouïs, d'où la non-historicité. Vous allez comprendre si vous n'avez pas suivi vendredi. Donc jeudi, vendredi dernier, avec le professeur Schmidbly, qui adore Nietzsche, grand spécialiste de Nietzsche, il nous a exposé certaines considérations de Nietzsche, notamment, il y avait des considérations inactuelles et des considérations intempestives, qui sont 1, 2, 3, 4, quoi. Tout ça, c'est les considérations... Dites inactuelles. Il a parlé, et ça c'était dans la seconde considération intempestive, donc qui a été vendredi. Et là il était question de non-historicité et d'historicité. Alors selon Nietzsche, je vais vous lire ce que j'ai écrit, en fait, ça sera peut-être plus simple. Donc nous avons pu voir vendredi, en Bergerus 10.35, la non-historicité, concept de Nietzsche, qui revient au phénomène inouï de Honoré de Balzac, comme j'ai déjà pu vous le dire à beaucoup de reprises, en fait, c'est la création, quoi, cet instant lumineux, quoi, qui arrive tous les jours à chacun d'entre nous. Donc, autant le temps présent de la création, de l'étincelle, ai-je écrit. Ce phénomène, aujourd'hui, est occidentalisé, dans l'objectif de pouvoir matérialiser, ficher, juger n'importe quel état, qu'il soit d'âme, physique, et de qualifier qualifier pour le mettre dans un paquet plutôt qu'un autre quelconque critique. Donc c'est toujours un peu le même délire, hein, mais sauf que lui, Nietzsche. Là, j'ai vachement... C'est ma dose, c'est mon écriture, mais c'est Nietzsche, au 19e siècle, déjà, ça se passait. Bon, après, il était vachement en avance, quand même. Hein. Il voyait des choses que personne ne voyait, Nietzsche. Aujourd'hui, tout le monde le voit, personne ne peut rien faire, en fait. C'est pas que ne fait rien, mais ne peut rien faire. Il y en a qui font rien. D'ailleurs, on va le voir là, avec un livre que j'ai trouvé. Non, puis on a installé un cellier, tu sais, à l'entrée. Et pour pas qu'on nous le vole, eh ben on a chié dessus. Comme ça, on ne le vole pas. Mais tous les deux, hein, on a tous les deux chié dessus, quoi. Comme ça, on ne volera pas notre cellier. Bah, on essaie de, tu vois, mixer le plaisir et le nécessaire, quoi. On a chié sur le cellier, quoi. Ouais toujours, hein. Donc, c'était vendredi, alors je ne sais plus si c'est Schmidbly ou moi. En tout cas, on a parlé de synchronicité, vous donnant l'exemple des livres. Ah si, c'était moi, parce que je vous ai donné l'exemple des livres. La synchronicité, vous savez, ce truc de Carl Jung, qui en parle dans tous ses bouquins quasiment. L'exemple en bouquinerie. Donc, moi, ça me concerne, hein, mais vous, c'est d'autres exemples. Ça peut être d'autres exemples, si vous faites attention, peut-être. Donc, je vous donne l'exemple des livres. En bouquinerie, donc, je suis tout venant éclairer, approfondir la thématique des Bergerus. C'est-à-dire que je suis dans un truc, une réflexion, et puis je vais dans une bouquinerie, et je trouve un livre que je ne connaissais pas, ni l'auteur, ni rien, et il dit, oh waouh, c'est exactement ce que je suis en train de travailler, quoi. Donc je le prends. Et c'est ça, la synchronicité. Et donc là, c'était après l'enregistrement de cette barge russe. Quelques heures plus tard, je vais dans une bouquinerie. Toujours la même. Deux ouvrages se sont proposés, quasiment agressés, hein, afin que je puisse continuer mes recherches. Donc nous allons donc écouter Evolution de Graham Moncure III, jazzman chez Blue Note, trombone, Evolution. Et donc ce morceau, je l'adore, il dure 10, 11, 12 minutes, je ne sais plus, il est merveilleux, mais l'évolution, c'est ça qui est important. C'est que par ce morceau, je décide de mettre ce morceau parce qu'il y a une évolution vraiment, quoi. Une évolution dans le temps, par la synchronicité, par la recherche, l'amalgame des jeux. Tu sais, je dis, ah ouais, tiens, bah maintenant, tiens, bah je vais aller en allant chercher mes enfants à l'école. Tiens, je vais partir 10 minutes, bon, une demi-heure plus tôt, et je vais aller voir dans cette bouquinerie. Et ben, j'ai bien fait. Allez, Evolution. Thank you. évolution et evolution, une évolution de l'historicité du point de vue de Friedrich Nietzsche, qui vient compléter les dires du professeur Schmidbly de la précédente Bergerus 10-35. Donc Nietzsche disait ça par rapport à la non-historicité qui est le moment qui est dans lequel on doit agir, quoi. Quelque chose, on ressent quelque chose et il faut le faire. Et de ça, que ça a été aujourd'hui, c'est fait maintenant, hein, c'est déplié. Ça maintenant, c'est occidentalisé, matérialisé, ouais. Ben, moi, je prends toujours cet exemple du téléphone portable. Tu peux plus avoir de temps à toi pour penser à toi un petit peu. Non, tu es ignoré par le téléphone portable. Il y a une réflexion très très bonne là, que je vais vous lire encore. C'est un exemple de téléphone portable, mais qui est assez probant, judicieux, parce que quand je me promène dans la rue, les mecs, tu vois pas de personne comme ça debout à attendre. Ils ont tous leur téléphone dans la main. Vraiment. Faites attention, mais vous. Bon, je veux pas dire que. Bah, faites pas pareil, quoi. Je vous invite à ne pas prendre votre téléphone dès que vous savez pas quoi faire, quoi. Parce que, bon, il n'y a rien de plus, quoi. C'est pour s'occuper, c'est comme la cigarette. T'as l'impression de faire un truc, comme ça. Si on te dérange, bah, ah ouais, je suis occupé. T'as pas envie qu'on te dérange, alors? Bah, ouais, mais je pense pas, parce qu'on a tous envie d'aider. Enfin, voilà. Bref, la métaphysique oubliée. Le péché de l'occidentalisation. La peur de nous-mêmes. Le rôle de la philosophie. Qu'on peut beaucoup plus voir avec Nietzsche et ses considérations. Ou l'émancipation de l'humanité, le rôle de la philosophie, par les vecteurs chimiques de nos alimentations, pour les conditionnements, de nos parents et enfants, que nous restions stables et en équilibre dans le système société de consommation, nous, citoyens qui écoutons, citoyens consommateurs même. Ainsi, Dominique Lecourt, du CRS, un livre que j'ai lu, son livre de 1990, c'est vieux, hein, ça a 30 ans, 34 ans, m'a introduit au paroxyste indifférent des entretiens de Jean Baudrillard et de Philippe Petit, qui date de 1997. Yeah. Alors, je vais essayer de prendre une voix un peu différente pour les questions de Philippe Petit. Et puis, je reprends ma voix normale pour lire Jean Baudrillard.
L'espèce psychique, ce n'est pas votre tasse de thé.
Pas vraiment. Les hommes ont d'abord un destin, ensuite une histoire. Une histoire qui correspond au futur, au choix des futurs qu'on prend à chaque instant. Qui va vers un avenir, qui est lié au destin, mais le présent peut changer à chaque instant. Selon le Mayenne des jeux, les choix qu'on peut faire à chaque instant. Le recoupement n'est pas obligatoire. Certains vivront toute leur vie dans la seule dimension historique, quotidienne, individuelle, dans le sens où ils pourront se raconter leur histoire, évoquer par où ils sont passés, rechercher leur origine. D'autres vivront sans se raconter aucune histoire et vivront leur destin sans histoire. Alors, à mon avis, il y a beaucoup plus de trucs que ça, mais lui, il met des familles, quoi. Deux grosses familles. Vivront leur destin sans histoire. Sans se poser de questions. L'individualité, la personnalité, sont autant de concepts faibles. Ce qui fait événement dans la vie, c'est une conjonction entre le monde tel qu'il est et le jeu du monde où le meilleur et le pire sont toujours en jeu. L'événement venu d'ailleurs. C'est ce que je vous disais, c'est les futurs en fait, les choix par rapport au temps présent que tu peux donner. Ça va t'orienter vers un futur ou vers un autre, mais ça va donner à la fin un peu la même chose. Mais tu vas passer par des endroits plus ou moins faciles. Tu vois, enfin, ouais. Cela vous arrive avant même que vous l'ayez voulu. La volonté est toujours après coup. Elle vient sanctionner quelque chose qui a déjà eu lieu. Ça, c'est pas mal. La volonté vient sanctionner quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est comme le projet. Vous faites quelque chose et rétrospectivement, vous en construisez le projet. C'est comme la construction du récit du rêve au moment du réveil. La volonté est là pour solder ce qui a eu lieu d'une autre façon. La psychanalyse a dit un certain nombre de vérités à ce propos, mais elle a enfermé le sujet dans son espace psychique et relationnel. Mais là, ce qui est entendu, c'est que... on l'a vu avec Nietzsche, on va le revoir avec Baudrillard, c'est que on s'enferme dans un intercalaire, tu vois, dans un... Et pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans un intercalaire? Eh bien, c'est dû au conditionnement. Et Jean Baudrillard, vous allez m'écouter, va nous raconter ça de plus près. Alors bonjour, oui, voilà, toujours on continue. Nous arrivons donc à un chapitre qui m'a vraiment fait un clin d'œil, qui s'appelle « Considérations actuelles ». Et juste avant, comme je vous ai dit, on était avec Nietzsche et considérations inactuelles vendredi et jeudi dernier, avec le professeur Schmilbli. Je pense à la manière dont la notion de crime contre l'humanité a pu devenir un droit positif sous la pression des juristes et des citoyens victimes d'exactions en tout genre. En fait, on a le droit. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Une caricature qu'il peut faire, mais ça dépend de quel crime on parle. Mais crime contre l'humanité, bon, oui, ça dépend de quel crime on parle. Mais il y a des crimes que tu as le droit de faire. Tu as le droit de souiller la planète, souiller l'eau. Attends, je voyais un reportage avec toi quelque temps sur des cours d'eau dans lesquels des personnes. C'était en Afrique. Ou en Amérique du Sud, tu vois, donc c'était pas des gens qui ne sont pas, pardonnez-moi, mais importants pour les mecs, les industriels. Donc ils déversaient des produits chimiques dans les cours d'eau. Donc les gens, peut-être ils se lavaient dedans, ils buvaient. Enfin, c'était de l'eau saine, quoi, pour eux. Ça, c'est pas un crime contre l'humanité. Et pourtant. Voilà. Mais ça, maintenant, on a le droit. Enfin, maintenant. Non, on a le droit d'intoxiquer des rivières et de tuer des civilisations entières. Bon. Qui c'est qui va le savoir? Mais même nous, maintenant, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est le système. C'est comme ça. Allez, continue. Alors, l'expression même de l'impuissance des nations occidentales à intervenir efficacement sur le terrain, leur incapacité morale et politique à exercer le droit. Ben, ils peuvent pas. Une telle impuissance n'est pas innocente et qu'elle correspond à une stratégie plus ou moins délibérée, simplement doublée de mauvaise conscience et de mauvaise foi. Le tribunal est aussi l'expression de tout ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire, en gros. Mais, comme il dit très bien, c'est mauvaise conscience et mauvaise foi. Les politiques, les États qui laissent faire ça, bah, c'est qu'ils ont de l'argent en échange. Alors, ils ont mauvaise conscience. Bah, ou alors, ils sont robots, quoi. Ils ont mauvaise conscience. Et donc là, le côté invisible va jouer contre eux, forcément. Et joue contre eux. Mais mauvaise foi. Et après, la politique, c'est là que ça vient. Que, oh non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et ils savent éperdument qu'en fait, il y a des milliards de morts, des milliers de morts, pas des milliards, peut-être pas, mais des milliers de morts. Non, je t'en fous. Bah oui. Et puis, mettez-la en bouteille, et mettez-la à Leclerc. Hein? Tant qu'à faire. Bah ouais. Là, on serait peut-être un peu plus concernés. Hein? Si on tombait malade ou on mourait. Et même, c'est déjà peut-être arrivé, je crois, des trucs, des produits, des bouteilles d'eau qui étaient envenimées. Alors ensuite, à la limite, le droit n'est énoncé que pour être transgressé. Il devient l'alibi parfait du crime parfait. Il a raison, mais bon, on n'avance pas trop en disant ça. Mais bon. Il est donc absurde de signer une pétition. Alors, je suis anti-pétition. L'autre jour, il y a un mec qui vient parce que... Il y avait un truc qui allait se faire. Il voulait signer une pétition. Et là, mais je ne l'ai pas signé parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis même énervé contre lui. Ils étaient deux. Je me suis énervé. J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Mais vous, c'est de la couille. Enfin, ça,
ouais. Il est donc absurde de signer une pétition qui sanctionne l'impuissance complice. Et peut-être calculer des puissances responsables.
Mais en plus, ça sert à rien du tout, quoi. Mais intérieurement, moi, je me voyais pas signer un truc que je savais ne servirait à rien.
Ainsi, on peut dire que si les puissances occidentales ont pleinement assumé le déshonneur de la situation, les intellectuels, eux, en ont assumé le ridicule.
Ouais, parce qu'il est question plutôt d'intellectuels, le rôle qu'ils avaient avec la politique, mais c'est un peu fini, ça c'était dans les années 90, ces intellectuels-là, chacun en pense ce qu'il veut. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de progrès moral, on n'a jamais repéré d'autre progrès de la conscience que celui de la mauvaise conscience, parallèle à celui de la mauvaise foi. Les deux confondus, dans la montée globale du ressentiment, entendu comme la forme ultime de la généalogie de la morale. Et là, boum, encore clin d'œil à Nietzsche. Alors. Il reparle d'intellectuels. Alors, les intellectuels, entre parenthèses, ceux qui s'affirment comme tels en même temps que comme conscience morale, fermeture de la parenthèse, sont toujours là comme les mouches du coche, à s'immiscer, malgré les innombrables preuves historiques de l'inutilité flagrante de cette démarche, comme conseiller bénévole d'un pouvoir qui, de toute façon, et c'est là le plus grotesque de la chose, n'en est plus un véritablement. Pour qu'il y ait un conseiller du prince, il faut qu'il y ait un prince. Et ce non-pouvoir que les intellectuels s'attribuent, on remarque que ça existe encore aujourd'hui, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, bon, peut-être toujours les intellectuels, et ce non-pouvoir lui-même cherche à s'immiscer dans la politique mondiale pour l'infléchir, alors qu'il n'en a pas les moyens, et que de toute façon, même ceux qui semblent en décider, par exemple la Maison-Blanche, ne sont jamais que les opérateurs ou les clones d'une machinerie multinationale revue par Bill Gates. Alors Bill Gates, à l'époque, il avait quand même 30 ans moins. Ouais. Bill Gates, vous connaissez, oui. Microsoft. Les banques et la spéculation internationale, lesquelles fonctionnent désormais dans une autonomie presque totale, selon des stratégies quasi automatiques dans le vide d'ailleurs. Et c'est une ironie dernière de l'histoire, et c'est ça l'ironie dernière de l'histoire, dont personne ne semble conscient, impatient qu'ils sont tous de tenir leur rôle dans cette histoire. D'un échelon à l'autre, tout le monde s'imagine manipulé pour son propre compte, tout le monde se sacrifie à une scénographie délirante selon une spirale insensée. Après, il est entre parenthèses, mais une spirale peut-elle avoir un sens? Où tous sont complices sans le savoir. Voilà, ça c'est l'état des choses actuelles. On est tous pris dans le système. Je vais y revenir.
Cette ironie de l'histoire, en quoi nous empêche-t-elle d'imaginer un au-delà du capitalisme?
Mais qui nous porterait au-delà, sinon le système lui-même?
Dans l'ancien rapport historique, il y a une polarité antagoniste et non complice. Des opprimés, des oppresseurs, et les opprimés ne vivent pas dans la récrimination, ils vivent dans la révolte. Ça, c'est nous. Aujourd'hui, tout le monde est confiné dans ses revendications victimales. On se plaint. Donc, plus de révolte, plus d'antagonisme, mais une situation perverse.
That's right.
Un nouveau contrat social pervers et consensuel où chacun cherche à obtenir sa reconnaissance en tant que victime.
Ouais. Ça fait penser, tu sais, comme aux États-Unis. Dès que tu fais un petit truc qui plaît pas à quelqu'un, et ben hop, le mec il t'attaque en justice pour gagner de l'argent. Bah en France, je reconnais qu'ils font des trucs comme ça déjà. Des fois, ils arrivent, j'entends parler de choses comme ça. Mais c'est différent, la justice est un peu différente en France. Mais bon. Et là, alors là, j'ai à noter, la matérialité a brisé la non-historicité. Le matérialisme. Je reviens à cet exemple du téléphone portable. Tu peux plus d'avoir de moments ping éclair, quoi. Du coup, tout le monde est à la fois victime et complice. Tout le monde est des deux côtés de la fracture. Nanana, celle d'une complicité malsaine avec l'état des choses. Le matérialisme emmène ça. Maintenant, on est dépendant. On est dépendant de cette illusion de nécessité de posséder. De posséder un truc qui sert à rien. Bon, bien sûr, il y a des objets qui sont utiles. Et aujourd'hui, une machine à laver, c'est bien, quoi. Ça, c'est un gain de temps incroyable. Un frigo, y a des choses qu'on peut pas revenir dessus, c'est vrai. Mais il y en a d'autres. Les crayons, attends. Là, cette émission est pour juillet-août, là. Mais on est aujourd'hui le 21 juin 2024. Il y avait quelques mois plus tôt, là, il y avait des crayons. Ah, mais tout le monde voulait ses crayons, quoi. Mais qu'est-ce que. Ça, c'est de la consommation de mauvais. Pour les enfants, mais les enfants, ils craquent là-dessus. Mais les parents, ils sont débiles aussi à acheter ça. Sauf que le parent, il veut faire plaisir à son enfant, parce que s'il n'en achète pas, les copines surtout, c'est ma fille, ils en ont. Alors, si j'en ai pas, qu'est-ce qu'elles vont dire, hein. Et après, c'est la société, c'est le conditionnement, quoi. Ah ouais, mais moi, je vous dis ça. Alors, vous, peut-être que vous allez en prendre conscience, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer? Rien. Donc, on va continuer. Parce que les enfants, ils vont pas changer. Ils sont conditionnés par nous. Par la société. Ouais. De toute façon, elle n'est pas en ligne de conflit. Il y aura pour des choses. Supercherie démocratique ou russe de l'histoire. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. C'est vachement dickien, ça. C'est carrément Philippe Cadic, ça. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Ubique. C'est pas génial. Et c'est ça. 68. C'est un monstre qui... Alors, le capitalisme, c'est un monstre qui inverse les données de la libération sociale. Ah ouais, ça, c'est pas mal. C'est le capital qui s'émancipe des travailleurs. Ce sont les parents qui se libèrent des enfants. Fin de l'Oedipe, fin de la lutte des classes, à l'ombre desquelles tout marchait si bien. Tous les courants s'inversent. On ne parlait que de liberté d'émancipation, de transformer en liberté le plus de fatalité possible, en 68, 70, tout ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la déferlante libératrice n'est que la meilleure façon de refiler aux esclaves le fantôme du pouvoir et de la liberté. C'est pareil, ma gamine, elle a 11 ans, là, elle veut de l'argent de poche. Je lui dis, tu as de l'argent de poche, tu vas te faire avoir. Hein. Et le téléphone portable, c'est pareil, tu rentres en prison quand tu achètes un téléphone portable. Voilà, j'en veux plus, moi. Il sonne tout le temps, j'en ai ras-le-bol, ça m'énerve. Et en fait, tu rentres en prison, tu te dis, ouais, et puis oh, il sonne plus, oh, je vais le chercher, je vois qu'il sonne, tu vois, allez, tu te le tapes dans la tête, tu le manges, tu le mâchouilles, tu le tapes par terre, il sonne, sauf que tu l'as cassé, il marche plus. Bon, et ben après, l'argent de poche, c'est pareil. La gamine, elle est avec toi, t'es le parent, tu dois être là pour lui faire la part des choses, tu vois, t'achètes pas des choses qu'il faut pas acheter, tu vois, qui servent à rien, qui sont inutiles. Un téléphone portable, par exemple, c'est inutile. À 11 ans, c'est de la bullshit, quoi. Donc, t'es là pour... Non, mais attends, quand on donne de l'argent de poche, c'est pas 10 euros, quoi, hein, c'est 1000. 1000 par semaine. Ah bah oui. Alors, on a 4 téléphones portables. Ah, peut-être pas, c'est plus cher que ça. Ouais, bon, on s'en fout, c'était un exemple de pour rigoler que je vous donne. Mais bon, ça change pas que... des bonbons, oh, bah, super. Et des bonbons, on en a à la maison, hein, si tu veux. Bon, bref. Bref, non, pas bref. Non, faut pas dire bref, là. Ah bah non, c'est mal vu, ça. En fait, c'est... Bah ouais, continue, mais... Alors, JB, continue. Tout le monde se donne la comédie de pouvoir du pouvoir. Ouais. La société du spectacle, l'illusion. Bah ouais, je peux. J'achète. Donc je peux acheter, j'achète. Bah ouais. Toi, mais je peux, donc... C'est la manigance. Et il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui marchent comme ça. Hein. Beaucoup dans l'apparence, quoi. Ouais. Non, mais même, tu vois, à petit revenu, dès qu'elles vont toucher l'argent de l'État, les aides sociales, quoi, elles vont aller acheter des fringues, des beaux fringues. Enfin, des beaux fringues. Des fringues, quoi, pour montrer, elles peuvent acheter. Alors que, faut manger aussi, et possiblement autre chose que ce qui coûte cher. Tu vois, parce que ce qui coûte cher, c'est ce qui est pas bon. C'est chimique, c'est des produits transformés. Alors que pas cher, c'est des patates avec des carottes, et puis un bout de fromage, mais bon, fromage, ouais. Du riz, c'est bien, ça. Du riz, du pain, c'est super. Puis, et du thon aussi, pourquoi pas. Du thon, c'est bien, le thon. Bah oui, mais bon, faut préparer, quoi. Faut acheter une casserole. Ah. Oui, mais si j'achète une casserole, je pourrais pas acheter mes lunettes de soleil. Ah, qu'est-ce que je fais? Allez, j'achète mes lunettes de soleil. On verra la casserole un autre jour. C'est moins important. Alors, tout le monde se donne, comme je vous disais. Mais je garde l'espoir, dit Jean Baudrillard, qu'il y ait un double jeu individuel et collectif. Il faudrait pouvoir déshériter, déconnecter la situation, briser l'enchaînement consensuel. Bah oui, mais il rêve. Ah voilà, et alors là, c'est vraiment ubique, quoi. J'ai lu Philippe Kadik à fond la caisse, alors que c'est Jean Baudrillard. Bon, c'est plusieurs dizaines d'années plus tard, mais... Même dans le cerveau reptilien du consommateur... Alors, évidemment, la question, le consommateur a donc supplanté le citoyen. A donc remplacé le citoyen. Oui, a donc supplanté le citoyen. D'où l'intense culpabilisation qui s'attache à ce nouveau style de conduite hédoniste. Alors, même dans le cerveau reptilien du consommateur de base, il est devenu clair devant l'ultimatum économique du pouvoir. Consommer. T'es pas entendu ? Non. Alors, consommer. Sinon, la machine s'arrête. Que les consommateurs sont devenus des otages, des cobayes, après la mobilisation générale du travailleur, du soldat, puis celle du citoyen, le suffrage universel. Votez n'importe quoi, mais votez. Alors là, c'est ubique à fond la caisse, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Moi, je suis d'accord. Hein. Votez n'importe quoi, mais votez. Ouais, faut aller voter. Bah ouais. Bah, Schmilblin disait qu'il avait voté le parti animaliste. Moi, j'ai pas voté encore. Je trouve ça... Non, je suis pas raccord avec... Le gouvernement, la démocratie, ce qui est appelé démocratie, non. Alors, pour les Européennes, je parle. Voici venu le temps des rires et des chants. Voici venu celle du consommateur. De quoi on parlait ? La mobilisation générale. Et du coup, de nouvelles formes larvées de résistance lorsque ceux à qui on veut extorquer le besoin, la dépense comme une obligation sociale, après leur avoir extorqué la parole, le vote, le sexe, le bonheur, réalisent quelle puissance embolique ils ont par rapport au système. Tout simplement consommer moins, non pas par objection de conscience ou même par détermination politique, mais par comportement réflexe d'autodéfense. Paf, tout est dit. Arrêtez d'acheter. Enfin non, pas arrêter d'acheter, parce que on est obligé, hein, on est dans un monde de capitalisme, hein, même si c'est le communiste était au pouvoir, vraiment dans le monde entier, il faudrait manger, donc faudrait le capitalisme, faudrait acheter pour manger, quoi, pour se laver, le minimum, quoi. Et lui, il dit, ben voilà, il faut, c'est ça, en fait, l'argent. Après, je vous dis, moi, j'achète des bouquins, mais j'achète très rarement des bouquins neufs, parce qu'un livre neuf, ça coûte 5 fois plus cher qu'un livre d'occasion. Bon, ça dépend lesquels, bien sûr. Ça dépend. Mais les trucs que j'achète, oui, c'est des petits livres de poche. Attends, les prix, tiens, 2,50€, et l'autre, il est un peu cher, par contre. 3,30€. Ouais, il est un peu cher. Et par contre, récemment, j'ai acheté Sturgeon, plus que parfait. Pas plus que parfait. Plus qu'humain, dont j'ai parlé jeudi dernier. Plus qu'humain, Sturgeon, 1€. 10, parce qu'il était abîmé. Il l'aurait vendu peut-être 1,90€ en bon état. Vieille édition. Mais ça ne change pas. La qualité est toujours là. Les traductions, des fois. Les vieilles peuvent être mauvaises. Enfin, les nouvelles meilleures, disons, plutôt. Donc là, ça, c'est un point de vue. Mais le Sturgeon, ouais, surtout, elles sont pas toutes bonnes, les traductions. D'ailleurs, celui que j'ai acheté, la traduction n'est pas bonne, mais bon, ça donne toujours un aperçu, quoi. Donc... Le paradoxe, dit Jean Baudrillard, de la libération est que celui qui est libéré n'est jamais celui qu'on croit. Ah oui ? L'enfant, l'esclave, la femme, le colonisé, c'est toujours l'autre qui se libère de lui, qui s'en débarrasse au nom d'un principe de liberté et d'émancipation. C'est pas mal ça. Vous avez compris ? Je vais vous dire la suite. D'où la préoccupation dramatique des enfants de faire en sorte que les parents veuillent bien ne pas cesser d'être des parents, en tout cas le plus tard possible. D'où la préoccupation collective de supplier l'État de ne pas cesser d'être l'État, de le forcer à assumer son rôle, alors que lui ne cesse de vouloir s'en dessaisir. Et il a de bonnes raisons pour cela. L'État n'a de cesse de libérer les citoyens, leur enjoignant de se prendre en charge, ce dont ils n'ont généralement pas envie du tout. Nous sommes tous en ce sens les Bartleby en puissance. Ah, Bartleby, je sais plus, bah, c'était qui ça ? Qu'est-ce qui... Ah, je sais plus. Melville, Bartleby, Melville. Melvin, non, Herman Melville. Bartleby en puissance. Nous sommes tous en ce sens des Bartleby en puissance. Et Bartleby, qu'est-ce que c'est? Bartleby est presque immobile, presque silencieux, presque inutile, presque mort, presque incompréhensible. On est des morts vivants, quoi. I would prefer not to. Ah oui, c'est vrai, il dit tout le temps ça. Soyez libre, soyez responsable, assumez-vous. Ubique, encore une fois. I would prefer not to. Donc ça veut dire je préférerais ne pas. Préférer ne pas plutôt que vouloir. Attends, c'était qui? Deleuze? Oh, qui est-ce qui avait écrit tout un truc là-dessus? Je crois que c'est Deleuze. Oh, je sais plus. Un super petit un article. Préférer ne plus. Ne plus courir. Ne plus concourir. Ne plus consommer. Ne plus être libre à tout prix. Tout ceci dessine la figure d'un repentir de la modernité, d'une indifférence subtile qui flaire les dangers d'une responsabilité et d'une émancipation trop belle pour être vraie. Donc, bah... Après. Qu'est-ce que je peux ? Bah non, on t'a rien demandé, Johnny. Tu lis Jean Baudrillard, tu lis plein de trucs, mais tu dis tout le temps la même chose. Mais est-ce que tu penses, Johnny, tu veux ? Oui, Helmut, que tu vas changer quelque chose ? J'aimerais une évolution possible, que les gens se posent des questions, quoi. Simplement. Être moins seul, quoi.
La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur JTFM.